S'il y a une gestion difficile de l'hésitation, elle n'est pas donc seulement un pathos, qui renvoie à une pathologie de l'indécis, mais aussi une économie, une praxéologie. Voilà, donc pour l'hésitation. Mais peut-être faudrait-il distinguer de l'hésitation l'oscillation. Alors ici, bien que je ne veuille pas traiter véritablement cet exemple, parce qu'il s'agit d'un ami très proche et de quelqu'un que personnellement j'aime beaucoup, j'estime et j'admire, et parce qu'il s'agit en plus d'un problème chaud, c'est-à-dire d'une image en action, je voudrais signaler qu'il faudrait peut-être interpréter, c'est-à-dire comprendre Solers selon la perspective d'une pensée, disons, sérieuse, et non seulement d'une pensée qu'on déclare incompréhensible, décevante et dévalorisante de l'oscillation. Certes, Solers produit depuis quelques années des palinodies spectaculaires, des va-et-vient de positions, des brouillages qui déconcertent, comme on dit publiquement. Je voudrais faire à ce sujet trois remarques à propos de cette éthique de l'oscillation. La première serait la suivante. C'est que, à mon sens, il y a remise en question évidente dans ces conduites du rôle de l'intellectuel en tant que procurateur noble et juste d'une cause, avec un grand C. Le carnavalesque, au sens martinien du mot, peut être une dimension de l'écriture de vie. C'est curieux que nous admettions, que nous admissions, le carnavalesque dans la littérature et pas dans la vie. Mais en fait, nous n'admettons pas dans la vie, précisément. Ça nous choque beaucoup. Nous pouvons lire du Rabelais, de Dostoïevski, mais dans la vie, nous ne pouvons pas voir quelqu'un qui vit devant nous selon un certain dialogisme assumé. Or, il est très possible que ce que fait Solers participe à ce moment précis de notre histoire intellectuelle où nous sommes dans une phase active de déconstruction de la mission de l'intellectuel. Et cette déconstruction, il y a d'autres signes plus théoriques, enfin il y a des déclarations théoriques extrêmement, je dirais, importantes et persuasive de Foucault, de Deleuze, de Glucksmann sur ces problèmes-là. Ça, c'est pas quelque chose d'isolé. Et cette déconstruction de la mission de l'intellectuel peut prendre sans doute la forme d'un retrait. Ça peut prendre la forme d'un retrait. L'intellectuel peut décider qu'il se retire le plus possible. Mais aussi, ça peut prendre la forme d'un brouillage, c'est-à-dire d'une série d'affirmations décentré ou d'une série d'oscillations. Deuxième remarque, la secousse qui est donnée à l'unité du discours intellectuel, qui est traditionnellement requis d'être un discours fidèle à lui-même et à la cause qu'il a épousée, la secousse donnée à l'unité du discours intellectuel peut se comprendre comme une suite de « happening » destiné à troubler la morale très surmoïque de l'intellectuel, comme figure de la noble cause, au prix évidemment d'une extrême solitude. C'est le prix qu'il faut payer. Notez d'ailleurs que le happening n'est pas reçu dans la pratique intellectuelle d'aujourd'hui. pratique intellectuelle que j'aimerais un jour voir décrire, parce que j'ai parfois eu envie de travailler ce que j'appellerais une éthologie des intellectuels. Enfin, troisième remarque, à travers une musique, je dirais effrénée, c'est-à-dire sans peur de l'oscillation, je suis persuadé que chez Solers, il y a un thème fixe, il y a une note, il y a ce thème fixe dont je parlais au début, et ce thème fixe, c'est l'écriture, c'est la dévotion, au sens quasi féodal du terme, à l'écriture. Alors le nouveau solercien, c'est que cette dévotion à l'écriture, quelques pages de paradis tous les matins, pendant des mois, des années, ne passe pas par l'attitude ordinaire de l'art pour l'art, ou de l'art agrémenté d'un engagement du citoyen écrivain qui vote ou signe toujours du même côté, mais que cette dévotion est accompagnée d'une sorte d'appellement radical du sujet, de sa compromission multipliée et incessante et comme infatigable. Je dirais que on peut comprendre l'attitude d'oscillation avec un grand taux solercienne comme une lutte entre l'inconclusion des attitudes et la tendance de l'image à se stabiliser et à se replier. Car le destin de l'image, c'est l'immobilité. Donc il faut une énergie extrême et une inventivité extrême des conduites si on veut que son image ne s'immobilise pas, ne se stabilise pas. Il y a là, disons, un type d'énergie qui, à moi, me rappellerait, et bien sûr, mutatis mutandis, comme on dit, certaines attitudes où l'image est néantifiée avec une énergie radicale, comme par exemple chez ce mystique musulman dont j'ai oublié le nom, donc ce ne sert pas à grand chose que je vous en parle. Bon, j'essaierai de le retrouver. Moi qui, d'ailleurs, mystique musulman, si incompréhensible à sa communauté, c'est qu'il a été lapidé, pendu, décapité, enfin tout le monde. Pardon ? Voilà, El Hadj. Et on peut dire aussi, je ne veux pas du tout comme ça verser dans une actualité facile, mais enfin, puisqu'on a commencé à faire avec Solers, on peut aussi dire sur le mode de la conversation qu'il faut essayer de comprendre ces comportements actuels, certains des comportements actuels, par rapport précisément à la lisibilité des conduits, dans l'optique que j'essaye de tracer un peu. Et par exemple, je suis sûr que les derniers séminaires de Lacan, dont je n'assiste pas, mais dont tout le monde me dit qu'ils sont véritablement incompréhensibles, alors qu'il y a de même 200, 300, 500 personnes qui reviennent là malgré cette incompréhensibilité. Non, je ne le dis pas d'une façon ironique. Je le dis justement comme quelque chose qui doit être interrogé. Et pas du tout sous l'aspect d'un phénomène de mode, de suivi. Mais au contraire, parce qu'il y a là une sorte de décrochage du suivisme intellectuel par production de ce que j'appellerai d'ailleurs plus tard le satori, c'est-à-dire une sorte d'ébranlement par l'absurde. Alors naturellement, ces conduites provoquent des résistances, résistance très forte, notamment de l'intelligentsia, à admettre et à reconnaître la variation, l'oscillation, et qui est bien illustrée par l'opposition que je viens de faire entre Gide et Solers, peut-être la première fois qu'ils sont comparés l'un à l'autre, d'ailleurs. Car l'hésitation gidienne est récupérable, elle est facilement récupérable parce que l'image est stable, justement, parce qu'il y a une image stable de Gide comme étant l'hésitant. Gide produit, au fond, l'image stable du mouvement. Et à ce moment-là, il est très facilement récupéré. Tandis que Solers, semble-t-il, empêche l'image de prendre. Et pour cela, encore une fois, il faut une très grande énergie et un très grand courage de solitude. En somme, tout se joue vraiment, non pas au niveau des contenus, mais des images. C'est l'image que la communauté veut toujours sauver, quelle que soit l'image, car c'est l'image dont elle se nourrit. Et s'il y a un scandale solercien, c'est qu'il s'attaque à l'image, précisément, et qu'il semble vouloir empêcher à l'avance la formation de la stabilisation de toute image, même celle de celui qui essaye des directions différentes, explore des contradictions avant de trouver sa voie définitive. Ça serait le mythe du cheminement noble. Je me trompe beaucoup, mais finalement, je vais trouver la voie, je vais trouver la vérité. Et même cette image semble peu possible, tant le brouillage des conduites est grinçant, ou, comme on m'a dit souvent, à propos de Solers, indéfendable.